Vous écoutez Paroles d'Archives, une série radiophonique où des jeunes vous parlent d'histoire. Bonjour, je suis Sabine Lemler, metteur en scène au sein de la compagnie artistique VIA. Avec VIA, nous créons des projets qui mêlent théâtre, pédagogie et mémoire. Depuis plusieurs années, je travaille avec les jeunes car les rendre acteurs de leur apprentissage me tient particulièrement à cœur. Avec les artistes Violaine Marine Embold et Mathieu Goust, nous avons imaginé des spectacles historiques et mémoriels. Paroles d'archives, une histoire alsacienne et périgourdine sur l'évacuation des Alsaciens en 1939 et France-Algérie correspondance autour des liens entre la France, l'Algérie de 1830 à nos jours. Ces spectacles, nous les jouons dans les collèges et les lycées. Après chaque représentation, un bord plateau, un moment de partage, permet aux élèves de réagir, de poser leurs questions et de laisser la parole circuler. Nous avons voulu aller plus loin. C'est ainsi qu'est née cette série radiophonique. Dans cette deuxième saison, vous découvrirez de nouvelles classes, de nouvelles voix, de nouvelles histoires. Les jeunes y mènent leurs propres recherches sur des événements du passé, avec l'idée que cette exploration leur donne envie d'aller à la rencontre de leur propre histoire. Peut-être cela vous donnera, à vous aussi, le désir d'aller fouiller dans vos archives familiales. Alors bonne écoute et à très bientôt.
Paroles d'archives, une série radiophonique où des jeunes vous parlent d'événements historiques du XXe siècle. Ce projet a obtenu le label Mission Libération de l'État.
Je pense à un projet. On pourrait faire une thématique sur le camp du Struthof.
Ah, j'avoue, c'est bien ça.
On pourrait, faire...
Plusieurs groupes peut-être.
Oui, voilà, avec une thématique.
Il faudrait découper les étapes.
On commencerait par quoi alors?
On pourrait commencer par les relations entre les déportés et les nazis, par exemple.
Ouais, ensuite on pourrait peut-être parler de comment ils vivaient dans le camp, comment ça se passait leur journée, etc.
Ou même le travail dans les mines.
Ouais, et pourquoi justement il y a le camp là et pourquoi ils travaillent dans les mines en fait?
Voilà.
Puis on pourrait finir sur comment s'est passée la libération quand les Américains ont tenu le camp.
Et aussi, peut-être qu'on pourrait étudier des travaux d'historiens. Je dis un nom au hasard, Théo Merz, par exemple.
Avec sa thèse?
Ouais, avec sa thèse, exactement, parfait.
Puis peut-être trouver s'il n'y a pas un site spécial pour Struthof, une mémoire ou quelque chose dans le genre.
Ouais, ça, faut chercher ça.
Un texte aussi, oui.
Ouais, donc on travaillerait sur un travail de recherche?
Oui, on commencerait par la recherche. Ensuite, on ferait la visite du camp. Puis on finirait par l'écriture des textes pour réussir à tout formuler.
Ça, c'est une bonne idée, ça.
Ouais, c'est parfait, ça.
Le 6 décembre 2024, guidé par notre professeur Pascal Im, nous avons visité le camp de concentration du Struthof.
Le camp du Struthof a été inauguré le 1er mai 1941. Il est le seul camp de concentration situé sur l'actuel territoire français, en Alsace. Mais en 1941, l'Alsace est annexée au Reich. L'Alsace est donc nazie.
Le camp de concentration est situé au lieu dit du Struthof, non loin d'un hôtel-restaurant alors très apprécié par les touristes, dans une région connue pour la randonnée en été et le ski en hiver.
Cet endroit contient des réserves importantes de granit.
Le camp du Struthof a pour objectif l'exploitation des mines de granit.
Mais aussi la divulgation de la terreur par la soumission des populations.
Le camp du Struthof est créé sur le modèle du camp de Dachau, reposant sur quatre principes.
La classification des prisonniers.
Le travail forcé.
La répression.
L'application de la loi martiale pour les crimes considérés comme graves.
Les premiers détenus arrivent les 21 et 23 mai 1941. Jusqu'en août 1942, ce camp demeure un camp fermé.
Ce qui signifie qu'il ne reçoit que des détenus provenant d'autres camps.
La grande majorité des détenus viennent d'Allemagne ou des territoires annexés.
Ils sont pour la plupart des prisonniers politiques.
Les premiers détenus ont tout à construire.
Ils sont affectés à des groupes de travail appelés commandos.
Comme dans tous les camps allemands, les détenus ont l'obligation de parler l'allemand.
Je me rappelle d'avoir lu une phrase de Gilbert May qui disait « Notre premier boulot, ça a été d'apprendre à nos copains à dire leur numéro en allemand. Ceux qui ne comprenaient pas l'allemand et qui ne savaient pas étaient tout simplement foutus.
Mais oui, notre guide, il nous avait dit qu'à l'arrivée, les détenus, ils sont accueillis par un discours qui disait « Vous ne pourrez quitter ce camp que par la cheminée ».
Ça me rappelle le témoignage de Roger Romani, un résistant français déporté au camp du Schrotthof.
Mais oui, c'est vrai. Il avait dit « L'apprentissage de notre nouvelle vie prisonnier se déroule ainsi, entre brutalité, misère, discipline de fer et détresse. Nous sommes à peu près certains que nous ne sortirons jamais de cet enfer ».
La journée d'un prisonnier est très dure.
Le quotidien des déportés est rythmé par des conditions de travail déplorables, parfois mortelles.
Les déportés sont soumis à des violences aussi bien physiques que mentales.
Levés le matin très tôt, 4 heures en été, 5 heures en hiver.
L'appel du matin.
Très peu de nourriture.
Beaucoup meurent de faim.
Tiens, en parlant de la nourriture, comme le dit encore Roger Romani, le seul moment de répit de la journée est la distribution de la soupe. Cela nous permet d'absorber un bol d'eau tiède et trouble.
Le travail quotidien. Soulever des blocs de granit, les déplacer à la main à l'aide d'un chariot. Et d'autres tâches plus pénibles les unes que les autres.
Nathan, tu veux bien lire le témoignage de Roger Boulanger ? Il a été déporté jusqu'en janvier 1944. Il avait refusé d'être incorporé dans la Wehrmacht sous l'uniforme allemand. Il avait seulement 17 ans.
Oui. Alors... C'était là notre lot quotidien. Ces activités menaient à un train d'enfer, sans aucun souci de rentabilité, visaient uniquement notre épuisement physique. L'objectif des nazis était de briser en nous toute volonté d'autonomie, de nous réduire à des automates, à une main-d'œuvre malléable, taillable et corvéable à merci, destinée à l'industrie de guerre.
L'appel du soir pour voir qui est mort dans la journée.
Dormir. Plus aucun bruit ne devait émerger après 21h.
Silence.
Le dimanche est un jour attendu patiemment par tous les déportés.
Le rythme est différent.
Pas de travail en commando.
Nettoyage des baraquements.
Mais lors de cette journée, ils subissent des appels plus longs et donc plus éprouvants, avec parfois la retransmission de discours de dirigeants nazis ou de représentations musicales.
Le dimanche, il y a aussi moins de personnel pour la surveillance. Alors les détenus en profitent pour s'autoriser quelques libertés, d'éventuelles réunions clandestines de résistance.
La résistance prend un aspect particulier dans le camp. Il fallait résister à l'organisation stratégique des SS de déshumanisation.
Tu vois, ça me fait penser à une phrase de Jeanne Marlowe qui m'a marqué. Résister dans les camps, c'est avant tout résister à toutes les pressions sur l'esprit, sur le cœur, sur le corps.
Écoute aussi les mots de Lucien S. Amine, tu veux bien lire s'il te plaît ?
Oui, je reçois le numéro 22808. À partir de ce moment, je ne suis plus pour mes gardiens une personne humaine, mais un être quelconque numéroté, qui n'est qu'une charge et un objet rebut. Garder une santé psychologique est un combat constant.
Le concept de détenu fonctionnel, aussi appelé capot, participe grandement à l'altération de la relation humaine. Cela consiste à confier certains postes détenus afin d'alléger le travail des SS et de façon évidente créer de l'animosité entre les différentes catégories de déportés.
Ces détenus fonctionnels se divisent en trois catégories.
Les surveillants de travaux.
Ils ont pour mission de veiller à la bonne réalisation du travail et d'empêcher toute tentative d'évasion.
Les surveillants de la vie dans le camp.
Leur rôle est de donner le rythme.
Les ordres pour l'exécution des tâches.
Les règles à respecter dans les blocs.
Chaque bloc est dirigé par un doyen.
Le doyen de bloc.
Bloc Altester.
Sont eux-mêmes assistés par les doyens de chambre.
Stuben Altesten. Les détenus fonctionnels.
Ce sont eux qui travaillent dans l'administration du camp, dans les cuisines, mais aussi à l'entrepôt et à l'infirmerie.
Ces détenus sont les plus favorisés dans leurs conditions de travail.
C'est d'autant plus le cas pour ceux qui travaillent dans les différents secrétariats, puisqu'ils se voient octroyer un pouvoir d'influence dans le camp.
Les privilèges d'une bonne entente avec les SS ont plusieurs avantages.
Quand ils intègrent les promontes, l'aristocratie du camp, les détenus sont déplacés au bloc 1, où ils disposent de plus de services.
Tout ce système ingénieusement pensé amène les capots à devenir plus violents parfois que les SS eux-mêmes.
Tous, sauf les juifs.
Mais c'est surtout les privilégiés, les fameux promantes, qui en profitent.
C'est à la dimension humaine que s'attaque l'organisation nazie.
Je sentais ma dimension humaine fondre et se réduire. Roger Boulanger.
juin 1944. Débarquement en Normandie.
En parlant du débarquement, Tom, tu veux bien lire la citation de Jean Lefebvre, s'il te plaît ?
Ouais, bien sûr. Quand nous avons entendu parler du débarquement, un mince espoir est né. Nous savions que quelque chose allait changer, mais à ce moment-là, il fallait encore tenir bon.
Pourtant, cet espoir ne peut éclipser les conditions de vie inhumaines. Les déportés, affamés, malades et vêtus de vêtements en lambeaux, luttent pour leur survie.
Écoutez une autre citation de Lucien Hesse. Mes chaussures étaient si déchirées que mes orteils étaient à l'air libre, enfoncés dans la boue et la neige, comme si le sol lui-même voulait me faire disparaître.
En août 1944, devant l'avancée des Alliés, la SS ordonne l'évacuation du camp, refusant que les 6000 détenus encore présents soient libérés. Le transfert vers l'Allemagne est une épreuve terrifiante. Pour les déportés, c'est une marche de la mort sous la surveillance impitoyable des gardes nazis.
Ah, je me souviens des mots d'un certain Joseph qui sont forts, je sais plus où ils sont. Ah, ça y est, je les ai retrouvés. Sayon, tu veux bien les lire, s'il te plaît ?
Ouais, bien sûr. Nous étions des ombres, des fantômes marchant vers une destination inconnue, où la mort semblait n'être qu'une question de temps.
Le 25 novembre 1944, deux jours après la libération de Strasbourg, des soldats américains découvrirent le camp, vide, mais encore imprégné des horreurs qui s'y étaient déroulées.
Il y a un autre témoignage de John Wilson, un soldat présent ce jour-là. Attends, je te le lis. Quand nous sommes arrivés à Natzweiler, c'était comme une scène irréelle. Le camp semblait abandonné, il n'y avait plus de vie.
Jim Carter, un autre soldat, évoque des morceaux d'âme égarés dans ce lieu de souffrance et de mort.
Le camp de concentration du Struthof est le témoin d'une page sombre de l'histoire.
Il a été le lieu de souffrance indicible.
Il continue de hanter les mémoires et de rappeler l'importance de ne pas oublier.
Il nous amène à nous poser des questions.
Comment des humains ont pu faire ça à leurs prochains ?
Comment des humains ont pu créer des choses comme ça ?
Comment des humains ont pu penser à un système pareil ?
Fort de ce projet, à nous de transmettre ce que nous avons appris.
De témoigner pour ceux qui ne seront bientôt plus là pour le faire.
Bravo aux élèves de seconde 8 de la cité scolaire Charlemagne de Thionville. Célia, Inès, Yanis, Byzantine, Julie, Ziana, Raphaël, Enzo, Axel, Maëlys, Robin, Léna, Caïs, Gabriel, Julia, Noémie, Clément, Lucie, Nathan, Alison, Maëva, Léna, Amin Abderrahmin, Juliette, Svetlane, Chiara, Guillaume, Ambre, Dmitro, Tom et Sayan. Merci à leurs professeurs Virginie Bolzan, Valérie Etrapini, Pascal Im, Sylvain Pelicek et Marie Sini. Merci au proviseur Salim Bouzad. Merci au principal et à la proviseure adjointe Jean-Pierre Clotilde et Véronique Terrier.
Enregistrement Violaine Marinembold et Mathieu Gouste. Montage et mixage Mathieu Gouste. Sur une idée de Sabine Lemler, conçue par la compagnie Via de Strasbourg. Création musicale. Les élèves de terminale de la section musique du lycée Marie Curie de Strasbourg et leur professeur Marie-Annick Guillemin,
ainsi que les élèves de 3e 3 du Collège du Parc de Hillkirch et leur professeur Martin Capès.
Merci à nos partenaires, la Région Grand Est, l'Organisme National des Combattants et Victimes de Guerre, les Archives Départementales d'Alsace, la Collectivité Européenne d'Alsace, le Pass Culture et le Crédit Mutuel.